vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs. Hosanna. Hosanna, c'est devenu une exclamation de joie, une expression de joie. Mais Hosanna, ça veut dire sauve de grâce. C'est une prière, Hosanna, en vérité. Ça veut dire sauve de grâce. Nous, on l'emploie, Hosanna, Hosanna, comme un cri de joie. Mais ce n'est pas la véritable explication. La véritable signification, Seigneur, sauve, de grâce, sauve. Mes frères, qu'il en soit ainsi, que Dieu sauve des âmes, que Dieu sauve des frères et des sœurs qui sont perdus. Parce qu'il y en a, hélas, des chrétiens qui ont tellement négligé leur vie spirituelle qu'ils sont perdus et qu'ils ne le savent même pas. C'est pour cela que nous voulons être très sérieux avec la parole de Dieu. Dans 40 minutes, nous allons prendre la Sainte-Cène. Combien il faudrait que ce temps soit un temps de victoire, un temps de guérison, un temps de délivrance, un temps de décision, où quelqu'un peut dire « oui, j'ai un rendez-vous avec le Seigneur », voire mieux, une confrontation avec Dieu. Parce qu'un rendez-vous, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que vous avez un rendez-vous avec quelqu'un que vous allez tenir compte de l'entretien. Mais quand vous êtes confronté à la vérité et que vous êtes bousculé dans votre cœur, vous ne pouvez pas faire autrement que de prendre une décision qui va vous amener à changer, car ce que Dieu veut, c'est que nous changions. Il n'y a rien de plus pire, de plus grave que de recevoir la grâce de Dieu en vain. Et c'est souvent écrit dans la parole de Dieu. Nous allons faire deux lectures dans l'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 12. Hébreux chapitre 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est un peu mon rôle. C'est le rôle de chaque chrétien, mais c'est le rôle des pasteurs de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauchés, ni profanes comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Amen. Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, verset 1er. Hébreux chapitre 2, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Je répète la question, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et je voudrais lire un autre texte dans l'enseignement de la parabole des dix vierges, Matthieu 25. Vous connaissez cette parabole où il y a un conseil qui est donné, un conseil qui ne sert à rien. Vous allez comprendre. Matthieu 25, verset 6. Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » C'est un conseil. Est-ce que c'était un bon conseil? Est-ce que c'est un conseil qui pouvait être exécuté? Et non, c'était trop tard. Et Jésus a inclus dans l'enseignement de ce texte cette vérité, comme on le voit dans le comportement d'Ésaü, qu'il y a des croyants qui pensent toujours avoir le temps de faire les choses. Toujours. on a un très très bon proverbe français qui dit « mieux vaut tard que jamais ». Alors c'est vrai dans le domaine terrestre, dans le domaine temporel. Mais je peux vous dire que dans le domaine spirituel, ce proverbe n'est pas bon du tout. Et voilà ce qui est arrivé à Ésaü qui, lui, il a vendu. Alors que ce texte, le conseil dit « achetez, achetez de l'huile ». Alors c'est vrai que Dieu a introduit dans ce texte ce conseil qui, en fin de compte, ne servait à rien, puisque c'était trop tard. Et j'aimerais vous dire que ces choses ont été écrites pour que nous réfléchissions. Pour que nous réfléchissions qu'il en sera certainement de même pour beaucoup de croyants qui n'auront pas pris à cœur les conseils de l'Écriture. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? C'était un très très bon conseil. Allez chez ceux qui en vendent et achetez-en. C'est exactement ce que Dieu peut nous dire ce matin. Achetez ce dont vous avez besoin. Quand vous avez besoin de pain, vous achetez du pain. Tout à l'heure, vous allez acheter du pain. Oui ou non? Vous aimez le bon pain? Vous aimez le très bon, il y a du très bon pain. Vous aimez acheter du bon pain? Vous aimez le manger? Vous l'achetez pour le manger? Quand vous avez besoin de quelque chose, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous le procurer. D'accord? Et c'est exactement pour cette raison que Jésus, à plusieurs reprises, utilise le verbe « acheter ». Moi, la première fois que je voyais dans la parole de Dieu « acheter de l'or, acheter de l'argent, acheter du vin, acheter du lait », j'ai dit « mais qu'est-ce que c'est ça ? » Ça n'a rien à voir avec la grâce de Dieu, puisque la grâce de Dieu, c'est tout gratuit. Mais j'ai compris que ce verbe indiquait qu'il fallait faire des efforts. Ésaü, il a fait un effort, pas pour acheter, pour vendre. Et beaucoup de chrétiens sont en train de faire ces efforts, ces mêmes efforts, de vendre. Il est dit par exemple dans un proverbe, c'est le proverbe « acquiert la vérité et ne la vend pas ». La vérité, ça ne se vend pas. La vérité, ça s'achète, mais ça ne se vend pas. Et beaucoup de chrétiens vendent, troquent la vérité contre leurs petites idées religieuses à eux. Ça part certainement pas d'une mauvaise intention. Quand on voit que Dieu a voulu que nous comprenions par le biais d'Ésaü ce qui s'est passé, vous vous rendez compte, il a vendu son droit d'aînesse pour quelque chose de matériel. Vous allez me dire, mais moi, monsieur Gauche, il est hors de question que j'en arrive là. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que vous avez peut-être pour certains vendu la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour des biens matériels, pour des affaires temporelles, pour des préoccupations matérielles, etc., etc. Et que vous ne vous rendez pas compte, comme je l'ai dit dimanche dernier, que vous êtes maintenant lié par ces choses. On peut être lié par le matérialisme, on peut être lié par la mondanité, on peut être lié par l'avarice, etc. Et toutes ces choses, petit à petit, nous enferment véritablement dans la désobéissance. Et si j'ai pris ce verset, comment échapperons-nous à négligeant un si grand salut? Mes frères et sœurs, ne soyez pas négligents. Nous avons eu trois prophéties. Vous savez, la prophétie, moi, j'hésitais à donner la mienne, puisque bien sûr, elle correspond à la prédication. Mais je veux bien séparer les choses. Parce que j'aurais pu le dire dans la prédication, mais je pense qu'il faut être sérieux. Il faut dire les choses comme il faut les dire. Et que les trois prophéties s'adressaient à quelqu'un qui a perdu le salut. Et que c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire absolument sérieuse. Et que vous comprenez bien que je n'ai pas envie de rire avec le salut des gens, avec votre salut. D'autant plus si vous faites partie de cette assemblée dans laquelle vous vous êtes impliqué, vous comprenez bien que je me dois d'être le plus vigilant possible, le plus sérieux possible avec l'état de votre âme. Un médecin doit faire très très attention à votre santé. Vous écoutez le médecin lorsqu'il vous parle? Mais vous savez, quand vous écoutez certains médecins, vous allez en voir un autre, il va vous dire l'inverse des fois. Bon mais ça c'est le corps, c'est pas trop méchant, quoique on y tient quand même à notre corps. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Ça, c'est vrai. Je l'ai souvent vu, ça, des gens qui me disent, voilà, je veux mourir. Et puis, quand ils sont malades, je veux que Dieu me reprenne. Et puis, quand ils sont à l'hôpital, monsieur, vous priez pour que Dieu me guérisse. Je dis, mais vous avez demandé à Dieu qu'il vous reprenne. Vous voyez comme quoi, des fois, on n'est pas tellement objectif avec les choses que l'on vit. Tout ça pour dire quoi? Le corps, c'est une chose. Si le médecin se trompe, c'est très grave. J'en suis sûr que c'est grave. Mais si les pasteurs se trompent dans l'exhortation qu'ils doivent adresser aux croyants et que les âmes se perdent, là, laissez-moi vous dire que c'est beaucoup plus grave, parce que là, on n'a pas affaire avec le corps terrestre, on a affaire avec l'éternité. Et que ces choses-là ont été écrites pour que nous comprenions bien qu'on ne s'amuse pas avec les conseils de Dieu. Il y a des conseils que vous entendrez trop tard. Le jour à l'enlèvement de l'Église, beaucoup de chrétiens réaliseront, qui ne sont pas prêts, réaliseront ces choses de ne pas avoir acheté de l'huile tant qu'il était temps. Beaucoup de chrétiens, de croyants, de non, souffriront de ne pas avoir pris au sérieux la prédication de la croix, n'auront pas pris au sérieux le domaine de la sanctification. Et quand le Seigneur, à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, nous demande d'acheter, il faut faire un effort et peut-être commencer à Dieu, mais montre-moi, à dire à Dieu, mais montre-moi quel est mon besoin. Je parlais du pain tout à l'heure, on aime manger certaines choses, on en a besoin. On est prêt à faire certains efforts pour se faire plaisir, même de temps en temps. Et nous ne ferions pas des efforts pour nous préparer à rencontrer Dieu? Alors on va voir quelques versets où il nous est demandé d'acheter. Et ne faites pas comme Ésaü qui a vendu. Combien parmi nous, mon cœur est affligé de savoir que parmi nous, là ce matin, il y a des chrétiens qui ont vendu leur droit d'aînesse. Vous entendez? Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Est-ce que le Saint-Esprit peut vous parler? Est-ce que vous réalisez? C'est une chose que Dieu m'a montrée l'autre jour. Je ne voyais pas de visage, mais je voyais plein de frères et sœurs dans l'Église qui ont perdu la grâce de Dieu. Ils ont perdu la grâce de Dieu. Le monde, le travail, les occupations. Et tout ça, ça sert de prétexte. Et le Seigneur vous dit, achetez de l'huile tant qu'il est temps. Car Ésaü, quand il a réagi, c'était trop tard. Et ce texte qu'on vient de lire dans les Hébreux parle à tous les chrétiens qui réagiront trop tard. Parce que ce texte nous dit qu'il ne put amener son père à changer de sentiment. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être sauvé? N'importe quel pécheur, n'importe quel chrétien. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est là. Parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Parce que quand Jésus est mort sur la croix et jusqu'à l'enlèvement, nous sommes dans la fameuse dispensation de la grâce. Et pendant la dispensation de la grâce, Dieu n'intervient pas parfois comme on voudrait qu'il intervienne. Nous, on a des prières très formidables pour que Dieu revienne chercher l'Église, etc. Mais n'oubliez pas que si Dieu tarde, c'est pour sauver le plus grand nombre. Et que Dieu sait ce qu'il fait, la loi de Dieu, elle est parfaite. Ne commencez pas à discuter avec Dieu, ça finira mal. Ça finira toujours mal si vous essayez de discuter la parole de Dieu. La loi de Dieu, on l'a lu hier soir avec les jeunes, elle est parfaite. Alors, soyons sérieux mes frères et sœurs. Le royaume de Dieu, c'est très joyeux. On a chanté des cantiques joyeux. Je dis à tous les meneurs de chant, commencez toujours une réunion par un cantique qui exprime la joie du salut. Parce qu'un chrétien, il a la joie du salut. Mais ce n'est pas parce qu'il a la joie du salut qu'il n'a pas le sérieux de son éternité et de s'appliquer à se préparer à rencontrer Dieu. Ces vierges folles se sont perdues, c'est Jésus qui parle, à cause de la négligence. Et moi je suis soucieux quand je vois le comportement de certains chrétiens. Je vous assure, hein, je m'inquiète vraiment. Je dépose ça au pied du Seigneur parce que je ne veux pas me faire piéger par les fardeaux, parce que Dieu dit à tous les pasteurs, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Ce texte qu'on utilise pour toute l'Église, en vérité, il est adressé aux anciens des Églises, pour qu'ils ne se fassent pas piéger par le fardeau, parce que c'est un fardeau le souci des âmes. Ça n'empêche pas que mon cœur est plein de joie, mais si vous voulez, mon cœur il est comme une pièce de monnaie. Il y a le côté pile, le côté face. Il y a la joie d'être prêt, et il y a de l'autre côté le chagrin que l'on a à cause des perdus. Paul le dit, je me réjouis toujours, et à un moment donné, il dit, j'ai dans le cœur un chagrin continuel à cause des perdus. Voilà, c'est pas contradictoire d'avoir de la joie et en même temps du chagrin, parce qu'on a de l'espérance bénie, et en même temps, on se fait quand même pas mal de soucis pour nos proches, parfois même dans nos familles, ceux qui ont rétrogradé, et je crois que nous avons tout intérêt à réfléchir aux choses de Dieu. Ésaü n'a pas été sérieux. C'était pourtant, enfin, vous avez vu son papa, son tonton, son grand-père, c'était quand même des pointures dans le royaume. Et voyez, mais c'est pas parce qu'on a un papa formidable et un grand-père formidable, et bien voyez qu'on est prêt à rencontrer Dieu. Son père, c'était qui? Jacob. Son grand-père? Abraham. Il n'était pas dans une bonne famille? Et bien cet homme, il s'est perdu. Parce qu'il a cru qu'il pourrait toujours amener son père, très sympa, à changer de sentiment. Et les gens, les chrétiens, ils en sont là aujourd'hui. Dieu est bon, on s'en sortira toujours. Dieu ne se lasse pas de pardonner, ce qui est vrai. Mais il va avoir un moment où Dieu va dire stop. La dispensation de la grâce va s'achever. Le Seigneur ne sera plus assis sur le trône de la grâce. Le Seigneur sera assis sur le grand trône blanc, c'est le trône du jugement. Et quand on connaît les choses, les dispensations, on comprend mieux. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une étude sur les 7 dispensations. Vous comprendrez mieux, justement, l'histoire du monde. Ce sont des choses que, quand on les sait, on réfléchit davantage. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, et le Seigneur est en train de nous rappeler, ce matin, au travers des Écritures, qu'il y a tout un tas de conseils qui ont été donnés, mais qui ne serviront à rien si nous ne nous appliquons pas. Alors, on lit quelques textes sur le fait d'acheter, s'il vous plaît, hein? Dans Ésaïe 55. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Vous savez, si votre vie spirituelle est malheureuse, si vous n'êtes pas heureux dans votre vie spirituelle, c'est parce qu'il vous faut pas vendre les choses. Il vous faut les acheter. Il y a trop de chrétiens qui ont vendu, on dit parfois des gens qui ont vendu leur âme au diable. Mais vous savez, ça tient debout, cette affaire. Ça tient debout, cette affaire. Regardez, comment il s'appelle, le frère à Abel, Caïn. Hein? Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, voilà, c'est vrai qu'il y a une condition, elle revient tout le temps, quelle que soit la dispensation. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Vous voyez dans ce texte que ce n'est pas une question de finances pécuniaires, c'est une question d'effort spirituel. Même celui qui n'a pas d'argent peut acheter. Alors ça peut, dans le domaine temporel, ça fait ridicule, mais dans le domaine spirituel, ça tient debout. On comprend très bien que ça demande un effort. Venez, achetez du vin, achetez du lait. Hier, on lisait avec les jeunes que la parole est comparée à du lait spirituel et pur. Nous devons nous rassasier du lait spirituel et pur de la parole de Dieu. C'est gratuit. Aimez-vous vous nourrir du lait de la parole de Dieu? Le vin nous parle de joie. Est-ce que Dieu peut donner de la joie? Est-ce que c'est écrit que Jésus, il est venu pour donner un diadème à la place de la cendre? Est-ce que c'est écrit dans Ésaïe 61? Jésus, il est venu pour nous donner. Mais ce que Dieu nous donne, il faut le prendre. Regardez, on est dans Ésaïe, c'est facile, Ésaïe 61. Regardez. Mes frères et sœurs, apprenons à méditer la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu nous donne, il faut quand même le prendre. Ésaïe 61, regardez, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner. Vous êtes avec moi? Pour leur donner, pardon, un diadème au lieu de la cendre, pour donner une huile de joie au lieu du deuil, pour donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Mais ce que Dieu vous donne, il vous faut le prendre. Il faut faire un acte de foi. Ce matin, personne ne sera au bénéfice de la grâce, de la miséricorde, du secours de Dieu si vous ne faites pas un acte de foi. Il ne faut pas entendre les prédications. Il faut dire, mais Seigneur, c'est vrai que tu es là pour donner. Il est venu pour donner. Et ce que l'on vous donne, il faut le prendre. Je vous ai raconté qu'il y a quelques années, je faisais une mission à Ajaccio et vraiment, j'avais eu à cœur de le faire. J'avais parlé sur le fait de donner et de prendre. Et j'avais mis un billet de 10 ou de 20 euros à la poche. Et je l'ai mis dans la poche, mais j'ai failli le mettre sur mes notes, ce que je vais vous dire. Et je dis, voilà, j'ai un billet de 20 euros, de 10 euros dans la poche, je le donne au premier qui le prend. Alors, les gens, ils ont regardé. Et puis tout d'un coup, un gosse qui s'est levé. Je savais. Et j'ai dit, je vous le promets. J'ai un billet dans ma poche, je ne blague pas. Le premier qui le prend, je le lui donne. Et il y a un gosse qui s'est levé. Il dit, monsieur. Voilà, et je lui ai donné le billet. Et je voulais marquer sur mes notes, je sais que c'est un enfant qui le prendra. Et c'est ce qui s'est passé. À la fin, il est revenu. Il faut que je vous le redonne, monsieur le billet. J'ai dit non, je te l'ai donné. Mais mes frères et sœurs, quand Dieu donne quelque chose, Il faut le prendre. Il faut, mes frères et sœurs, il faut être sérieux. Quand je vois la quantité de gens qui disent « Oui, mais Dieu est ici et Dieu est là », écoutez-moi. Mais vous vous rendez compte que si Jésus, si Dieu nous a donné Jésus sur le bois de la croix, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Et c'est pourquoi ça fait deux ou trois fois que je préfère que nous prenions la Sainte Cène après la prédication. Mais pour que ce soit une occasion de plus de prendre la victoire. D'ailleurs, quand Jésus dit « prenez et mangez, prenez et buvez », vous comprenez bien qu'on ne doit pas s'arrêter au morceau de pain et au petit peu de vin que l'on boit. Il faut saisir la victoire. La victoire, mais ça me rappelle quoi ce pain? Ça me rappelle quoi ce vin? Que Jésus a tout accompli pour que je ressorte victorieux. Quand Jésus dit « mais prenez mon joug ». Et recevez mes instructions, et vous trouverez le repos. Il y a deux verbes, prenez et vous trouverez. Beaucoup de chrétiens disent, oui, Dieu fait rien, je ne comprends pas, je n'ai pas la paix. Ça peut arriver des périodes d'épreuves où Dieu peut nous permettre qu'on vive des moments difficiles. Ça peut arriver. Moi, j'ai vécu des trucs, tous, on a vécu des moments, oui ou non. Bon, mais d'une manière générale, d'une manière normale, linéaire, on doit vivre dans le repos. Prenez mes instructions, recevez mes instructions, recevez-les, c'est-à-dire prenez-les, et vous trouverez le repos. Pourquoi tant de chrétiens sont agités, sont inquiets, ont peur du lendemain? Mais parce qu'ils ne prennent pas. Le Seigneur dit, il va vous donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit battu. C'est le ministère de Jésus. C'est ce qui se passe dans la dispensation de la grâce. Et même si on a des raisons d'être triste vraiment. Il y a de quoi être triste. Mais nous, les chrétiens, nous savons qu'il y a une échéance qui nous protège de la colère de Dieu. Nous le savons que nous sommes à l'abri du jugement. Nous le savons que ce qui va arriver sur la terre, nous en serons épargnés, que le nom du Seigneur soit béni. Mais nous ne devons pas, parce que les temps sont difficiles, nous priver de cette grâce qui est encore saisissable. Et nous pouvons la saisir tous les matins, chaque jour, saisir cette grâce. Acheter du vin. Le vin, c'est la joie dans la maison du Seigneur. C'est le symbole de la joie. Le premier miracle que Jésus a fait, vous le savez, il a changé l'eau en vin. C'est le premier miracle. Il n'a pas fait ça pour le fun, comme on dit. Il a fait ça parce que c'était dans le plan de Dieu. Ça correspondait. Vous savez, il y a des cycles dans la Bible. La fin, c'est quoi? La fin de l'Église, c'est quoi? C'est les noces de l'agneau. Vous savez, enfin, la fin, le début, la fin de l'histoire de l'Église sur la terre, en tout cas, la fin de la grâce. Ça se termine par les noces. Mais l'histoire de l'Église a commencé par les noces de Cana. Tout ça, ça se tient, il y a des similitudes. C'est impressionnant comment Dieu est un Dieu étonnant dans ce qu'il a préparé. Mais il a changé ce qui était fade en quelque chose de bon. Ce que Dieu veut ce matin, c'est pas que vous considériez tout ce qui va arriver, parce que je peux vous dire que ça va aller de plus en plus mal. Mais c'est un scoop? Est-ce que vous le savez? Ça va aller de plus en plus mal. Ne priez pas pour que les choses s'arrangent. On peut prier pour que les gens soient sauvés dans les situations. On peut prier pour qu'en Syrie, l'Église soit protégée. Mais il faut bien que tout converge sur la troisième guerre mondiale. C'est écrit ou c'est pas écrit? Alors, si vous demandez la paix en Israël, vous allez avoir des problèmes. Ce qui se passe en Israël n'est pas un processus de paix. Écoutez, si quand même on a les yeux ouverts, c'est un processus de guerre. Parce que le problème, il n'est pas géographique, il n'est pas politique. Le problème, il est spirituel. La Bible dit telle chose, le Coran dit autre chose, et vous comprenez bien que c'est un problème spirituel. Et nous, les chrétiens, nous devons combattre le bon combat de la foi et prier pour que Dieu sauve des Arabes, pour que Dieu sauve des Juifs. Ce matin, le trésorier me faisait part d'un chèque, je crois qu'on a reçu. C'est ça, non? De New York. Il est où, le trésorier? C'est ça? Eh bien, cet homme, il est juif et il est marié avec une arabe. Ils sont tous les deux chrétiens. Ils sont à New York et ils m'ont dit, voilà, monsieur Gaulle, on veut soutenir votre ministère. Voilà, on vous envoie des sous. Dieu aime les juifs, Dieu aime les arabes. Dieu, il veut sauver les hommes. Dieu, il veut sauver en Corée du Nord. Dieu, il veut sauver en Palestine. Dieu, il aime les Jordaniens. Dieu, il aime les Palestiniens. Dieu, il aime tous les hommes. Et on n'a pas rentré dans ces considérations ethniques ou politiques. Un chrétien, et il ne fait pas de la politique. Oui, il en fait ou il n'en fait pas? C'est un jour adapté. Il en fait ou il n'en fait pas? Bon, ce n'est pas grave qu'il en fasse ou pas. Ce qui est important, c'est que le spirituel doit être au-dessus, en tous les cas. On n'a pas à juger ces choses. C'est pas de mon ressort, ces choses-là. Ce qui est important, c'est que nous comprenions que Dieu, il veut sauver tous les hommes. Et il le fera au travers d'une église en bonne santé, au travers d'une église qui ne se laissera pas happer par les temps difficiles. Moi, je crois que dans les temps difficiles, les chrétiens peuvent être joyeux et peuvent vivre tout en étant tristes. Je l'ai dit, ça paraît paradoxal, mais ne soyez pas frustrés par ces changements d'émotions qu'on a dans notre cœur parfois, ce fardeau que l'on a pour les perdus, et tout d'un coup cette joie de chanter en un clin d'œil. En un clin d'œil, c'est magnifique, et c'est cohérent, c'est très cohérent, je le répète, d'avoir de la joie et d'avoir du chagrin. Un chrétien, il est obligé d'avoir ces deux sentiments-là, ces sentiments spirituels, parce que nous voyons certaines choses, mais nous pouvons être joyeux dans les temps difficiles, parce que l'espérance que nous avons est une espérance bénie. Donc, achetez, regardez dans les proverbes, par exemple. Le problème, il est là, c'est qu'on ne saisit pas les choses. On les écoute, on peut être d'accord, vous pouvez dire, oui, tout ce que dit M. Gault, c'est biblique, mais ça ne vous guérira pas. C'est comme un médicament que le docteur vous donnerait, vous dit, voilà, c'est ce médicament qu'il vous faut, et que vous ne le preniez pas. Voyez ? Proverbe, chapitre 4, verset 5. C'est le verset que je citais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? À qui est, verset 5, à qui est la sagesse ? À qui est l'intelligence. Verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquier la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquier l'intelligence. Proverbe 23. Vous voyez, c'est écrit. Ce sont des choses, elles sont sérieuses. C'est le fait d'acheter. Proverbe 23. Acquier la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Ce sont des choses que vous pouvez vous procurer. Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, donne-moi du bon sens. Accorde-moi de l'intelligence. Seigneur, je veux prendre de la sagesse. Il n'est pas dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement et sans reproche. Sans reproche. Nous, on pourrait faire des reproches. Tiens, celui-là, il n'est pas aidé. Celui-là, il n'est pas futé. Mais ça, je ne sais pas. Mais mes frères et sœurs, on ne peut pas demander au Seigneur, donne-moi de l'intelligence. À moins que vous pensiez que nous ne puissions pas en intégrer davantage. Mais mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut demander à Dieu de nous donner de l'intelligence ? Est-ce que l'on peut dire au Seigneur, donne-moi de la sagesse, que je comprenne les merveilles de ta loi. Donne-moi de la sagesse, donne-moi de l'intelligence, donne-moi d'acquérir la vérité. Je le répète, la vérité, ça ne se vend pas. C'est écrit, vous l'avez sous vos yeux, acquis la vérité et ne la vend pas. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, on fait comme Ésaü, on est en train de vendre la vérité, on est en train de brader la vérité. Je ne vais pas revenir sur tout ce que je dis depuis des années, à savoir qu'on est en train de tout brader. La parole de Dieu, on la brade. Oui, on permet aux gens qui vivent paxés de prendre la Sainte-Seine, on permet aux gens qui vivent en concubinage de prendre la Sainte-Seine. Après tout, ils s'aiment. Mais le problème, il n'est pas là. Et voyez, c'est ça, vendre la vérité. Ce n'est pas à nous de juger la vérité, je l'ai dit souvent, c'est à la vérité de nous juger. Un chrétien spirituel, il n'aura pas le toupet de juger la parole. Un chrétien spirituel, il aura la joie de laisser la parole de Dieu le juger. Ce n'est pas ce que vous pensez de la parole qui est important, c'est ce que, si vous laissez la parole de Dieu vous conduire, ça c'est important, mes frères et sœurs. Donc, on va voir encore dans l'Apocalypse. Vous connaissez tous ce texte, Apocalypse chapitre 3. C'est l'église de Laodicée qui représente l'église qui n'est pas prête, puisque Jésus est à la porte. L'Apocalypse chapitre 3 nous parle de l'église de la fin des temps. Là aussi, les sept églises de l'Apocalypse parlent de l'histoire de l'église au cours des générations, même si chacune peut représenter une église, bien sûr. Mais ces églises, l'église de Laodicée, c'est la dernière église juste avant l'enlèvement. C'est l'église qui n'est pas prête, parce que l'apostasie est à l'intérieur. Jésus, dans cette église, où c'est qu'il est ? Il est à la porte. Vous vous rendez compte ? Mais est-ce que vous réalisez l'affront que les croyants font à Jésus. Lui qui a tout accompli sur la croix, il est à la porte. Et en plus, il patiente. Combien de temps vous frapperiez, vous ? 2 minutes, 3 minutes ? Mais Jésus, il attend. Vous comprenez pourquoi, quand on passera devant lui, toute bouche sera fermée. Il est dehors. C'est l'église de la fin des temps. C'est pour ça que nous ne voyons pas la grâce de Dieu se manifester comme on le voudrait. Pourquoi nous ne voyons plus de conviction de péché? Pourquoi nous ne voyons plus de guérison et certaines choses où Dieu confirme sa parole? Je ne dis pas qu'on n'en voit pas quand même, parce qu'il ne faudrait pas exagérer non plus. Mais mes frères et sœurs, si Jésus est dehors, il ne peut rien faire dedans. Bien sûr que vous allez me dire, mais monsieur Gau, c'est pas vrai, c'est pas biblique. Dieu est omniprésent. Oui, Dieu est partout. Oui, Dieu est au milieu de nous. Oui, Dieu avec chaque chrétien. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est omniprésent. Mais ce n'est pas parce qu'il est présent qu'il va agir. Il n'agit que lorsque l'on respecte certaines conditions. Et dans cette église, il donne 5 conseils que nous devons prendre avec sérieux. 3 nous demande d'acheter. Vous connaissez ce texte ? Une église qui ne sait pas l'état spirituel, elle est tiède, voilà, c'est comme les vierges folles. C'est pas grave, je suis tiède, mais enfin, je suis quand même tous les dimanches au culte. Attends, où tu vas ? Il y a des gens qui ne vont même plus à l'église. Moi, je vais à l'église. Mais les tièdes, écoutez, les tièdes, Jésus les vomira. C'est écrit ou c'est pas écrit ? C'est sérieux. Vous ne devez pas vous contenter d'une certaine tiédeur, ça ne peut pas aller. Dieu n'est pas d'accord. Vous, peut-être, votre pasteur, peut-être, si vous êtes dans une église où le pasteur s'en accommode, parce que vous êtes toujours là, vous continuez à donner votre dîme, alors le pasteur, ça lui va bien. Ça lui va, un pasteur qui a les chrétiens qui donnent leur dîme, ça lui va très bien. Alors je généralise un peu, mais vous savez que c'est vrai. Je dis ça, mes frères et sœurs, parce que je sais que beaucoup de pasteurs écoutent mes prédications, et de chrétiens, et ils doivent entendre ces choses. Et nous n'avons pas le droit de maintenir la tiédeur pour des intérêts financiers. C'est un péché devant Dieu. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs ? C'est un péché. Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Je te conseille, vous remarquerez, la sollicitude, la délicatesse du Seigneur, ça reste un conseil. Nous, on pourrait dire, mais bougez-vous. On aurait presque envie d'attraper les gens par la cravate et de les secouer, oui ou non ? Vous n'aimeriez pas, des fois, si en secouant les gens par la cravate, ils se convertissaient, combien vous en secouriez par jour ? Une vingtaine, non, au moins. Moi, j'ai toujours été touché par cette sollicitude divine, parce que les choses de Dieu ne se font qu'avec amour. Je te conseille. C'est grave, Jésus est à la porte, il va revenir, il va prendre l'église, et voilà ce qu'il dit, je te conseille d'acheter. Je te conseille d'acheter 2 mois. Oui, c'est toujours dans la présence de Jésus que ça se passe. 2 mois. Chaque mot est important. De l'or éprouvé par le feu. L'or, c'est l'emblème de l'intégrité. Cette intégrité, afin qu'on soit... Regardez la richesse, c'est quoi ? Je te conseille d'acheter 2 mois de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église qui veut devenir spirituellement riche ? C'est sérieux ce que je vous dis. Vraiment riche, spirituellement enrichi. Eh bien, c'est une question de temps de qualité dans la présence de Dieu. Et l'or, vous savez que l'or, il est plus ou moins pur. On parle d'or à 15 carats. Vous savez qu'on compte l'or en 24 grammes. Si c'est de l'or à 15 carats, ça veut dire qu'il y a 15 grammes d'or dans 24 grammes d'or. Mais ça fait, vous voyez, il y a 9%. Alors, ça ne se voit pas. C'est pour ça qu'on parle 15 carats, c'est ça. Il y a 15 grammes d'or dans les 24 grammes. Et vous comprenez que ce que Jésus est en train d'enseigner, il est en train d'enseigner que lorsqu'un homme passe du temps de qualité dans la présence de Dieu, son intégrité est de plus en plus profonde, son intégrité est de plus en plus vraie. Et tout ce qui est scorie, qui est mélangé, eh bien, peut s'enlever. Et vous savez que le fondeur, on peut enlever même de l'or, l'argent. Il peut y avoir toutes sortes de métaux. Il peut y avoir de la terre, il peut y avoir du zinc, du fer, du cuivre, du plomb, de l'argent. Et même quand on veut raffiner l'or, on fait en sorte qu'il soit à la plus grosse température pour que même l'argent remonte. On enlève l'argent de l'or pour qu'il n'y ait que de l'or. Et vous avez remarqué dans l'Apocalypse que les rues d'or, elles sont comment ? Transparentes. L'or, c'est pour ça qu'il n'y a jamais d'or pur. Parce que le véritable or pur, il est transparent. C'est pour ça que vous le croyez ? les rues d'or pur seront transparentes. Un cœur transparent devant Dieu. Quelle bénédiction. Vous ne croyez pas, mes frères et sœurs ? Un cœur vrai devant Dieu, où nous laissons le Seigneur. Il faut du temps, je disais hier, que la parole de Dieu est un miroir. Et il y a ceux qui se regardent et qui s'en vont aussitôt. Et il y a ceux qui plongent leur regard dans la loi parfaite. Et ils laissent le temps à Dieu de faire remonter les choses. L'or, ça ne fond pas en 30 secondes. Il faut énormément de temps pour que l'or, à très haute température, fonde. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine, mes frères et sœurs, de prendre du temps de qualité pour que notre cœur fonde devant Dieu ? On n'est pas capable des fois de prendre un jour pour aller se détendre. On n'est pas capable de prendre des fois un soir, aller, on est fatigué, ça fait rien. Allez, on va se faire un petit resto. Est-ce que sérieusement, on n'a pas eu fait ça? Même fatigué, pour le plaisir de se retrouver avec son épouse, avec ses enfants, de prendre 2 heures, vous l'avez jamais fait ça, mes frères et sœurs? Il n'y a que moi qui l'ai fait. Vous l'avez jamais fait de prendre 2 heures pour vous retrouver avec quelqu'un, même si vous étiez un peu fatigué. Allez, on sort ce soir, allez, on se paye un petit resto. On a passé 2 heures. On avait besoin de se retrouver avec sa femme, avec son mari, pour parler de choses. Le besoin de passer 2 heures ensemble avec quelqu'un qu'on aime. Mais dites-moi, est-ce qu'on ne peut pas passer un peu de temps avec ce Seigneur qui nous aime tant? Est-ce qu'il faut qu'il entende? Est-ce que vous entendez sa voix? Peut-être que vous ne l'entendez plus. La prophétie, la deuxième prophétie disait que Dieu frappe, il frappe à la porte de ton cœur. Il a parlé une fois, il a parlé 2 fois. Mais peut-être qu'un jour, tu n'entendras plus rien. Tu n'entendras plus rien. Et tu seras comme Ésaü, tu vas te retrouver perdu. En ayant eu les parents et les grands-parents spirituels, comme ce n'est pas possible, vous allez vous retrouver perdu. Si quelqu'un veut devenir riche, écoutez-moi, c'est extraordinaire, parce que cette richesse-là peut s'obtenir sans frais. Vous vous rendez compte, cette égalité de la part de Dieu. Vous pouvez devenir riche. Acheter de l'or. Seigneur, je veux me tenir devant toi. Est-ce qu'on en a tous besoin? Est-ce que la personne la plus spirituelle dans l'Église, est-ce qu'elle a besoin encore d'être purifiée? Mais bien sûr, et justement, je suis convaincu que la personne la plus proche de Dieu éprouve encore plus le besoin de s'approcher du Seigneur pour que les petites scories encore remontent. Seigneur, aide-moi. Est-ce qu'il va vous aider? Oui, il a dit, je serai votre aide. Il a dit ou il n'a pas dit? Vous êtes sûr qu'il l'a dit? Le Seigneur a dit, je serai votre aide, ne craignez rien. Il est là pour nous aider, mais un jour il ne nous aidera pas. Le jour où la trompette d'or sonnera, d'or, je ne sais rien, la trompette sonnera, ça sera terminé. Et tous ces conseils, toutes ces prédications, qui sont en fin de compte que des conseils, ne serviront plus à rien. Et beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Parce qu'on n'aura pas pris au sérieux cette affaire. Mais vous vous rendez compte, le Seigneur, il est à la porte. Le Seigneur, on le fait attendre. Il patiente. C'est une affaire de fou, cette affaire. Et il patiente, et encore, il nous fait des promesses. Écoute, moi, je veux que tu sois riche. Moi je ne sais pas, moi, on pourrait dire à un moment donné, bon, écoute, il y en a marre. Non, je te conseille d'acheter de moi, parce que tout ça, c'est dans la présence de Jésus. De l'or éprouvé par le feu, Dieu peut nous éprouver de plusieurs manières, bien sûr, afin que tu deviennes riche. Alors, est-ce qu'on veut une église riche? Alors, est-ce qu'il faut prier pour qu'il y ait des milliardaires? C'est ça que ça veut dire? Non, ça veut dire que les chrétiens doivent prendre du temps de qualité devant le Seigneur. Et je m'adresse à tous ceux qui justifient leur emploi du temps, trouvent comme prétexte leur emploi du temps. Ne vous amusez pas à ça. Ne vous trompez plus vous-même par de faux raisonnements. Vous allez le regretter. C'est vrai que vous aurez l'opportunité, pour beaucoup, d'être sauvé après l'enlèvement, mais au prix de votre vie. Et moi, c'est une affaire qui ne me convient pas beaucoup, ça. Est-ce que vous voulez attendre ce moment? Est-ce que vous voulez connaître la colère de Dieu? Soyez sérieux. Prenez du temps de qualité. Si Dieu vous dit, je te conseille, aimez les conseils. À Noël, on dit, on l'appellera Père éternel. Père éternel, tout puissant. Prince de la paix. Conseiller. Mais le Seigneur pourrait nous dire, mais vous avez rejeté mes conseils. C'est écrit dans Ésaïe. Vous n'avez pas tenu compte de mes conseils. Vous les avez jetés derrière vous. Conseiller, conseiller. Mais oui, ce matin, le Seigneur, dans son amour, te conseille d'acheter de l'or, d'acheter des vêtements blancs. Pourquoi des vêtements blancs? Hein? Pourquoi? Ça aussi. Afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il leur avait dit, tu ne sais pas que tu es misérable et nu. Nu, alors qu'on l'a vu dans Ésaïe 61, mais je vous donnerai le manteau de la délivrance, les vêtements du salut. C'est gratuit, il n'y a qu'à prendre. La Sainte-Seine, c'est l'occasion rêvée dans la semaine pour dire, mais je veux prendre ces vêtements, je les veux ces vêtements blancs, ces vêtements de sanctification, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps, ce n'est pas le dimanche matin, c'est qu'en tout temps ta vie soit pleine. Et pour ça, il faut passer par la croix pour être entièrement béni par Dieu. Vous rappelez à Gethsémané, quelqu'un me disait dernièrement, Monsieur Gou, je n'avais pas fait attention que le jour où Jésus a été arrêté à Gethsémané, il y avait un disciple qui le suivait et on l'a saisi par le vêtement et il s'est retrouvé nu. Nu, ça ne veut pas dire entièrement nu, bien sûr. Mais il s'est retrouvé tout nu. Moi, quand j'ai lu ce texte la première fois, j'ai pensé à tous les chrétiens qui n'accepteront pas la croix. Ils se retrouveront nus devant Dieu. Parce que vous savez, la vie avec Dieu, il faut passer par la croix. Et après la conversion, il faut rester à l'ombre de la croix. Et je te conseille, mon frère, ma sœur, qui ne va pas bien avec Dieu, tant que les conseils sont valables, je te conseille d'acheter des vêtements blancs ce matin. Prends-les. Tout ce que le Seigneur veut te donner, prends-les, achète-les par un acte de foi. Oui, je ne prendrai pas un morceau de vin, je ne prendrai pas un morceau de pain, mais par la foi, je revêtirai la sainteté du Seigneur. Je me revêtirai de sanctification. Je ferai très attention à mon comportement, à mon attitude, à mes paroles, à mes propos, à ce que je regarde, à ce que je dois faire. Sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Et acheter un collier pour oindre tes yeux. Mes frères et sœurs, on a besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Et je termine avec cette pensée. Vous savez, quand cet homme avait tombé le fer de hache dans la rivière, il a appelé le prophète, et le prophète lui a dit, mais où il est tombé? Et il a dit, là, cet endroit. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de bois, il l'a jeté, et ce morceau de bois a aimanté le fer. Ne cherchez pas un bois qui aimante. Mais ça, ce morceau de bois parlait certainement d'un bois beaucoup plus important. Le bois de la croix qui devrait nous attirer à Dieu. Tous nos échecs, tout ce qui est dans la mare, tout ce qui est dans la fange, tout ce qui est dans le péché. Est-ce que Dieu a le pouvoir encore ce matin de faire remonter tout ça? Où est-il tombé? Et quand Jésus parle à l'église de la dernière église avant l'Odyssée, l'église de Philadelphie. Non, ce n'est pas l'église de Philadelphie. Quand il dit, mais souviens-toi d'où tu es tombé. C'est l'église d'Éphèse, non? Ouais, c'est l'église d'Éphèse. Il lui dit, mais souviens-toi. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des églises qui n'ont pas de berger. De berger sérieux. Oui ou non? Mais il y a des chrétiens qui ne veulent pas de berger. Vous entendez? Et ça, c'est vrai aussi. Et je termine par cette question. Est-ce que vous voulez un berger? J'aurais formulé la question. C'est sérieux. Dieu écoute. Vous le savez qu'il y a des pasteurs, des églises qui n'ont pas de berger. C'est une catastrophe. Ils perdent les âmes, vous savez. Mais est-ce que vous croyez que tous les chrétiens veulent véritablement un berger? Est-ce que vous en voulez un berger? Et si ce matin, au travers de mon ministère, le Seigneur vous conseille... Je vais vous parler de trois conseils, les deux autres, on ne les a pas lus, c'est repens-toi, et donc du zèle, et repens-toi. Parce que des fois, la repentance, ça ne suffit pas. Il faut vraiment être zélé tout à nouveau, et dire, je vais retrouver ce zèle. Mais souviens-toi d'où tu es tombé. Le bois de la croix, il est encore efficace. C'est pour ça que Dieu a institué la Sainte-Seine, pour que nous nous souvenions chaque fois que nous la prendons, que nous pouvons être au bénéfice de cette grâce, tant que Jésus est assis sur le trône de la grâce. Alors, est-ce que vous voulez acheter ces choses? Le vin, le lait, des vêtements blancs, du collier, de l'or. Est-ce que vous voulez acheter ces choses? De la sagesse, de l'intelligence, du bon sens, la vérité. Est-ce que vous voulez les acheter ces choses? Il n'y a rien à payer parce qu'il a payé lui. Alors, qui c'est qui a vendu? Qui c'est qui a vendu son droit d'aînesse? Il y en a parmi nous. Les prophéties, elles n'étaient pas pour les absents. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Monsieur de Dieu, Olivier, s'il vous plaît, vous choisissez les frères. Mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, je sais que parmi nous, il y a quelqu'un, au moins quelqu'un de perdu, c'est sûr. C'est une affaire sérieuse. C'est sûr et certain, il y a, je ne parle pas d'un pécheur de nouveau, je parle d'un chrétien. Ce matin, c'est certain, il y a parmi nous un chrétien perdu. Paresseux, comme Ésaü, vous avez vendu le talent, le don, les talents, les dons pour des choses de la terre. Vous n'avez pas calculé, vous n'avez pas calculé la dépense. Et Dieu vous prévient. Merci Seigneur. Que ce chrétien ou cette chrétienne se ressaisisse. Et que ce moment de Sainte-Seine soit pour lui l'occasion d'avoir la victoire. Vraiment la victoire sur le péché, sur la négligence, sur la paresse. Dieu est là pour bénir, je vous le dis, il est assis sur le trône de la grâce. Et dans toutes les églises de l'Apocalypse, il n'y a aucune église qui puisse connaître un échec fatal s'il y a repentance. À partir du moment où il y a repentance, il y a restauration. Que son nom soit béni. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole. Tu nous l'as laissé afin que nous négligions pas un si grand salut. Tu as permis que nous nous retrouvions ce matin dans ta maison. Tu veux bénir les frères et les sœurs. Tu veux bénir les perdus. Tu veux bénir le ou les fils prodigues. Tu veux toujours bénir, Seigneur. Oui, tu te tiens à la porte encore ce matin et nous te remercions pour ta patience, pour l'infinie grandeur de ta patience. Vraiment, Seigneur, pour ta patience qui, nous le croyons, est notre salut. Seigneur, bénis ce moment de Sainte-Seine. Que la victoire soit dans le cœur des croyants. Que tous puissent prendre ce vin, ce lait, ce collyre, ces vêtements, cet or, cette intelligence, cette sagesse, cette vérité. Merci Seigneur d'avoir toi tout payé à la croix. Que ton nom soit béni Seigneur Jésus. Si vous êtes baptisé par immersion, levez-vous à votre place. Levez-vous joyeusement. Mais c'est le jour de l'enlèvement que vous réaliserez le bonheur d'avoir été sauvé sur la terre. Levez-vous avec fierté d'avoir un Dieu comme le vôtre. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'êtes pas baptisé, si vous n'êtes pas converti, réfléchissez. Réfléchissez, la porte est ouverte. Repentez-vous, convertissez-vous. Si vous êtes un fils prodigue, jetez-vous dans ses bras. Ça prendra le temps que vous vous repentiez. 2 secondes, pardon, pardon. Que ce ne soit pas des lèvres, mais que ce soit du cœur. Ça ne prendra pas plus de temps. Mais faites-le sérieusement, pas pour retomber cet après-midi, mais pour porter du fruit. Tous ici doivent être sauvés ce matin. Les adolescents, vous qui venez, vous qui accompagnez vos parents, vous qui n'êtes peut-être pas intéressés, Dieu veut vous sauver. Car un jour, les conseils ne serviront plus à rien. Alors, que vous soyez assis ou debout, vivez ce moment avec beaucoup de sérieux devant Dieu. Vraiment avec beaucoup de sérieux. Saisissez la délivrance, la guérison, la victoire, la faveur, la grâce, la miséricorde, le secours, l'aide, tout ça, vous savez, toutes ces grâces que Dieu est capable de vous accorder. Continuons à le louer ou à prier, que tout se fasse avec ordre et bienséance. Que le nom du Seigneur soit béni.